Seigneur, ouvre nos oreilles pour entendre ta parole. Seigneur, merci parce que ta parole est vivante. Elle n'est pas morte. Elle est encore vraie aujourd'hui et nous voulons te bénir. Parce que Seigneur, par ton esprit, tu l'animes dans nos cœurs afin qu'il puisse produire du fruit à ta gloire. Amen, amen. J'ai oublié tout à l'heure, hein, quand Joseph est venu parler, il aimerait avoir un lift, on appelle ça au Canada un lift, hein, juste quelqu'un qui puisse l'emmener à Versailles. Est-ce que quelqu'un pourrait, qui va par là, pour l'emmener, ou sur une gare qui l'amène à Versailles en direct, est-ce que quelqu'un pourrait faire ça pour Joseph, après le... Versailles, ou peut-être, je sais même, à plaisir, il y a un train qui amène... Sinon, il faut qu'il aille sur Paris et revienne, quoi. C'est possible? Ok, voilà, on a trouvé quelqu'un. Seigneur, dans l'église, il y a toujours des gens pour aider. Merci beaucoup. Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens 3. Je vais lire à partir du verset 9, mais on va s'attarder au verset 23 après. Verset 9. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » C'est ce point-là aussi que j'aimerais enfoncer ce matin, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Et vous, on peut devenir chrétien par la nouvelle naissance, mais après, il faut savoir ce qu'on bâtit dessus. On peut bâtir des choses qui ne vont pas demeurer dans l'éternité. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Voyez-vous, le problème de ce qu'on fait pour le Seigneur, c'est que tout sera éprouvé par le feu. Vous dites amen ? Oui, sauf que c'est pas très réjouissant parce que le feu... ça détruit quand ça vient pas de Dieu et ça reste quand ça vient de Dieu. Donc, il vaut mieux faire des choses qui sont de Dieu. Vous êtes d'accord? Voilà, c'est pour ça qu'on est on est testé aujourd'hui pour qu'à la fin, eh bien, nos œuvres puissent rester. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Vous voyez, en plus, il y a des récompenses qui sont attachées aux œuvres qu'on fait. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, on est d'accord, hein, mais nos œuvres recevront une récompense. Et voilà, est-ce qu'il y en a qui veulent une récompense ici de Dieu? Oui, tous, hein. Le problème, c'est que tous, on veut une récompense, mais voilà. Est-ce qu'on bâtit réellement selon Dieu? Et c'est toute la question. Alors, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais qu'au travers du feu. Voyez-vous, le plus important est gardé. Il sera quand même sauvé, mais au travers du feu. Qu'est-ce qui se passe quand votre maison brûle et que vous êtes dehors à la regarder? Nous, on était aux États-Unis là, il y a 2 mois, 3 mois, et juste à côté de chez nous, il y a eu le feu qui a dévasté je ne sais pas combien de maisons. Puis il y a un monsieur qui a témoigné, il était parti au match de foot. Quand il est rentré, il y avait un petit tas de cendres. Toute sa maison, il n'y a plus rien. La voiture, tout est cramé, quoi. Le feu avait passé. Vous voyez, ça va vite, hein. Donc le feu, il ne laisse rien. L'eau, à la limite, il laisse des choses, hein. C'est aussi dramatique, hein, l'eau. Mais voilà, l'eau part et vous pouvez... Feu, rien. Plus rien. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et ça, c'est important aussi à noter au passage, ce verset, que quand on est à Dieu, les gens qui nous touchent, hein, qui veulent nous tuer, tout ça, c'est grave pour eux, hein. On n'est pas là pour les juger, quoi que ce soit, mais ce verset montre que c'est très très grave qu'on touche à un chrétien. Hein. C'est pour ça que vous êtes gardés. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous arrivera rien. Hein. Il vous arrivera des choses que Dieu le permet. Hein. Mais très souvent, c'est les épreuves qui nous amènent plus près du Seigneur. Hein. Et ça, on a du mal à l'accepter. Mais c'est une réalité. Mais les gens qui touchent à des chrétiens, attention, hein, c'est pas innocent. C'est pour ça que nous sommes forts dans la foi. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Voyez-vous, les hommes d'aujourd'hui, comme de tous les temps d'ailleurs, ils cherchent la sagesse. Hein. Sagesse, c'est de savoir se comporter dans la vie pour être heureux, chercher, trouver le bonheur. Hein, on cherche tous le bonheur. Pas évident quand on entend les guerres, tout ce qui se passe dans le monde. Mais c'est vrai que la recherche du bonheur, la recherche de la sagesse, c'est universel, tout le monde cherche ça. Mais le Seigneur dit, cette recherche est quoi? Est-ce que vous lisez vos Bibles là, ce matin, vous êtes endormi, non? La recherche de sagesse, selon le monde, c'est quoi? Folie! Dis à ton voisin folie. C'est de la folie. Dis à ton voisin, la recherche de la sagesse selon Dieu, c'est folie. C'est une folie. Voilà. C'est ce qu'on lit ce matin. C'est une folie. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur fourberie, et encore le Seigneur connaît les raisons, les raisonnements des sages. Il sait qu'ils sont vains. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort. Soit les choses présentes ou les choses à venir, tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin et que vraiment ces paroles puissent toucher nos cœurs, Père, au nom de Jésus. Amen, amen. J'aimerais quelqu'un qui écrit bien. Alors, tu vois, vous voyez, ça c'est Charles Cosme qui a fait une belle image l'autre jour pendant la louange qu'on avait ensemble. Hein. Tu viens juste la commenter, et puis après je te donne le stylo pour m'aider. Parce que, il écrit bien, si vous avez vu. Alors il va juste commenter ce petit dessin.
Vous reconnaissez bien la louange de ce côté. Et puis nous étions nombreux, on était plus nombreux, beaucoup plus nombreux que ça. Et pendant qu'on chantait, voilà, je suis passé par là. Bon, tu m'as dit prends le stylo et puis fais. Voyez, ici il y a sur notre tête il y a voilà, il y a juste l'église et puis il y a un peu de nuages. Après, je dis, la limite là, en fait, j'ai fait ça très mince. Au fait, ça représente le second ciel, où il y a justement des esprits qu'on appelle des esprits territoriaux. Ils sont des généraux, hein, ils sont puissants. Mais leur puissance n'est rien par rapport à, ici nous sommes au troisième ciel, vous reconnaissez quelqu'un qui est là, c'est à quoi. Et regardez ce qui se passe, il a le regard sur nous, ce qu'on faisait. Il montrait qu'il recevait, qu'il était béni dans son cœur. Et qu'en retour, justement, c'est un échange. Ce n'est pas que nous seuls. Nous, on faisait monter ça. On faisait monter aussi ce qu'il y avait dans le cœur. Mais lui, il faisait descendre sa pluie de bénédiction sur nous, le jour-là. Voilà. Et ceux qui sont là, des points d'interrogation, points d'exclamation, au fait, c'est les voisins. Tous ceux pour qui nous prions. Il se demande, il se doute, il y a quelque chose qui se passe dans les cœurs en ce moment. Il se demande, il y a quelque chose qui se passe dans cette église-là. Et voilà, nous croyons qu'ils vont venir, ils vont franchir la porte. Et nous les verrons bientôt. Voilà.
On l'applaudit? Tu restes là? Voilà. On va faire deux colonnes. Deux colonnes, voilà. Cette colonne, c'est selon Dieu. Et ça, c'est selon le monde. Ici, on appelle ça des païens. Ça veut dire quoi, païen? Ça, c'est le Dieu judéo-chrétien. Pourquoi je mets judéo-chrétien? C'est quoi la différence entre le Dieu judéo-chrétien et le Dieu païen? Vous ne faites pas trop dans le cerveau. C'est que il n'y a qu'un seul lieu, celui qui a parlé à Abraham, Isaac, Jacob, qui a fondé Israël, qui a donné son fils Jésus-Christ, c'est le Dieu, le seul Dieu. Amen. Amen. Et tous les autres, c'est des païens. Donc païen, ça veut dire que tout ce qui n'est pas judéo-chrétien, c'est tout. C'est tout, toutes les pensées, toutes les religions, toutes les voilà. Et il faut qu'on vienne de là à là. Il y en a qui étaient païens avant d'être chrétiens. Voilà. Donc vous avez compris. Ok. Passer de là à là. Là, c'est une relation et là, c'est une religion. Alors ici, on va mettre quelques éléments, tu les mets assez distincts, pour qu'on puisse mettre en face. Voilà, je vais juste avant de commencer, lire un verset dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1. « Sache que dans les derniers temps surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruel, ennemi des gens de bien, traître, impulsif, landé d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Nous sommes dans des temps de la fin. Moi, personnellement, les temps de la fin, on a toujours été dans les temps de la fin depuis les apôtres. Hein, ils parlent des temps de la fin. Mais moi, je situe vraiment les temps de la fin dernière depuis 1948. C'est là où je suis né, hein, c'est facile à connaître. C'est la naissance d'État d'Israël, parce que c'est l'horloge des nations. Hein. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le retour du Seigneur est proche. Donc on est dans ces temps vraiment de la fin, où on voit l'ensemble du monde, vous voyez, globalisation du monde, hein, eh bien, tourner vers les choses mauvaises au lieu de se tourner vers Dieu. Et quand on se tourne vers Dieu, bien sûr, les choses peuvent changer. Mais si on reste là, eh bien, ça ne peut pas changer. Alors, on va voir un petit peu les deux, pour que vous puissiez discerner. Parce que je m'aperçois que beaucoup de chrétiens ne discernent pas les temps dans lesquels ils sont. On discerne les temps avant. Hein, on critique facilement nos aînés en disant « Ouais, ils n'ont pas vu ça, ils n'ont pas vu ça, ils n'ont pas vu ça. » Et nous, je vois que les chrétiens aujourd'hui ne voient pas le temps dans lequel ils sont. Je le vois et je suis vraiment désolé. Enfin, je suis pas le seul à être désolé, mais voilà, j'ai dit, attends, c'est incroyable quoi. On arrive à critiquer le passé et on n'arrive pas à voir le présent. Et il faut que nos yeux s'ouvrent sur le présent. Il y en a qui veulent voir le présent. Hein. Alors, je vais essayer de vous conduire dans quelques messages pour voir le présent et où nous en sommes, de manière à être plus vigilant. Vous savez, quand vous marchez dans la forêt, je sais qu'un ami m'a dit qu'il est retourné au Cambodge, je crois, ou au Vietnam, je ne sais plus, et il a dit, quand il est allé voir ses parents, enfin sa famille, et on lui a dit, surtout, descends pas de ta voiture. Parce que si tu descends de la voiture, 20 ans après, il y a encore des mines, et tu peux sauter. Hein, vous voyez. Donc, quand on est vigilant, on fait attention. Quand il n'est pas vigilant, si on ne lui avait pas prévenu, il sortait, il faisait un petit pipi, paf, il sautait, quoi. Voilà, non mais c'est ça, hein, 20 ans après, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien, vous voyez. Parce qu'il y a des mines. Eh bien là où nous sommes, il y a des mines. Je peux vous le dire, il y a des mines. Et je vais essayer de vous ouvrir les yeux sur ces mines, pour que, en tant que chrétien, vous puissiez faire des œuvres qui durent. Et quand le feu veut passer, eh bien vous puissiez avoir une récompense, au lieu de vous trouver tout nu, juste avec le salut, et puis rentrer dans le ciel, et plus rien, quoi. Plus d'œuvre. Il y en a qui veulent ça, non? Non. Alors il faut être vigilant. Amen. Alors on va commencer ici par écrire le schéma... Attends. Parce que sinon il y aurait trop à écrire. Le schéma Israël. Alors j'ai prêché ça il y a 15 jours. Quels sont ceux qui se rappellent le schéma Israël? Alors, qui veut le déclarer? Alors, c'est un peu plus long. Écoute, on va pas tout écrire. Attends, on va pas tout écrire. Ah oui, le chemin, Israël. C'est écoute, Israël. Vous voyez, ça commence par écoute. Écoute, Israël. L'Éternel est ton Dieu. L'Éternel. L'Éternel, c'est quoi le nom Pardon? Yahvé. Et Yahvé, ça veut dire quoi? Ou Jéhovah, pour ceux qui mettent des... Voilà. Je suis, en français, c'est je suis celui qui suis. Donc on met Yahvé ou je suis celui qui suis. En tout cas, c'est l'Éternel qui se définit, qui dit qui il est. Et donc, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, hein, et le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, celui qui s'est révélé à nous, hein, qui s'est révélé sur la montagne flambante là, de fumée sur le mont Sinaï à Moïse. Et ça termine par « L'Éternel est un ». Pardon ? H-Y-W-H. W ou V, H. Donc tu mets ici « L'Éternel est un ». L'Éternel est un. Il y en a qui comprennent ça, « L'Éternel est un ». Non, pas évident. Alors vous allez voir que le piège, il est là. Dans les pièges dont je vous ai parlé, pour éviter les pièges sur votre chemin de chrétien dans la vie. Voilà, c'est pas évident de comprendre, et pourtant, il est là. L'Éternel est un. Dans ces derniers temps, c'est là qu'est le piège. L'Éternel est un. On va mettre ici Dieu, Dieu donc, ou l'Éternel, hein, ou Dieu, et le tout autre. Le tout autre, c'est une manière que les théologiens, comme par exemple C.S. Lewis, que vous connaissez bien, qui est un des plus grands théologiens du XXe siècle, il n'est pas tout seul, a traduit le fait que Dieu, il n'est pas comme nous. Nous, nous sommes des créatures, et lui, il est quoi ? Incréé. Il n'est pas créé. Il existe de toute éternité. Dieu, c'est Dieu. Okay ? Donc on ne peut pas comparer quelqu'un qui est incréé, qui n'a jamais eu de création, il est, voilà. D'ailleurs, ça nous dépasse, on n'a pas besoin de le comprendre. Il est incréé et nous, on est créé. La preuve, c'est qu'on meurt, hein. On a besoin du Seigneur Jésus pour recevoir la vie, mais nous, on est créé, on est créature. Donc, il y a bien une différence entre celui qui est créé, incréé. Le tout autre, bon, c'est pas marqué dans la Bible, hein. C'est comme la Trinité, c'est pas marqué, mais ça exprime bien ce que ça veut dire. Il est tout autre, ok ? C'est pas un copain, c'est pas quelqu'un qu'on lui tape sur le dos, c'est quelqu'un qu'on... Voilà, on a du respect. On a du respect pour Dieu. Hein. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas de respect. Oh, donne-moi ça, et si tu me donnes pas, voilà, etc. Vous voyez ? Non, on a du respect. Hein. Dieu, il est Dieu, et on le respecte. Donc ça, c'est le deuxième point important. Le troisième point important, c'est de le marquer ici, c'est « Je suis une créature ». Je suis une créature. Vous voyez, c'est de se rappeler qui on est. Bien sûr, on peut rajouter beaucoup de choses derrière, hein, en particulier le torrent qui purifie nous l'a rappelé. Hein. Je suis une créature aimée de Dieu. Hein. Dis à ton voisin, tu es aimé de Dieu. Hein, c'est important. Tu es aimé de Dieu. Hein. Dis à ton voisin, tu es à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Amen. Vous voyez. Et dis encore à ton voisin, tu es le temple de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. Hein, voilà. Qui est-ce qui a encore une idée ? Il y en a 36 000. Hein, hein, qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on est ? Il faut se le dire. Enfant de Dieu. Voilà, allez-y, allez-y. Pardon ? Ambassadeur, co-héritier. Vous voyez, c'est extraordinaire. On pourrait passer tout le culte à répéter qui on est. Donc, mais c'est important de se rappeler qu'on est créature. OK ? Donc, on ne va pas prendre le dessus sur Dieu. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui veulent prendre le dessus sur Dieu. Hein. C'est ça la subtilité. C'est pour ça qu'il est dit, dans les derniers temps, il y aura tout ça. Parce qu'on n'est plus à notre place. Okay. Et là, tu mets ici, je suis celui qui suis. C'est Yahvé. C'est celui qui a donné ce nom à Moïse. Quand Moïse a dit, mais quand j'irai voir mon peuple, parce qu'il savait qu'il était rebelle, il savait qu'il était rejeté par le peuple, parce qu'il avait fait des bêtises aussi. Et il dit, mais que vais-je dire à ce peuple ? Tu m'envoies, ok. Eh bien, tu diras, je suis celui qui suis. Amen. Je suis l'être. Hein. En théologie, on appelle ça l'ontologie, c'est-à-dire la science de ce qui existe en premier. Hein, la science de l'être. Être. Je suis celui qui suis. Alors, dans le monde païen, il y a un équivalent. Tu peux peut-être l'écrire en vert. Voilà. Il y a un équivalent au chemin Israël. Et c'est ce piège qui nous attend. Alors juste pour défleurer le sujet hein, de ce que nous vivons, c'est que l'ennemi a une tactique. Et quand vous connaissez cette tactique, vous voyez qu'il fait toujours la même chose. C'est comme ça que c'est beaucoup plus facile à déceler ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il ne change pas tout le temps, il est dans une stratégie. Vous voyez. Et une des stratégies, c'est d'opposer des pôles, les pôles que Dieu a créés pour être un acte de créativité. Dieu a mis dans la création la capacité de créer, de procréer. Et qu'est-ce qu'il a mis en premier? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Je vous ai mis sur la piste. Qu'est-ce qu'il a mis en premier qui est au-dessus de toute créature? Pardon? Adam et Ève. Il faut dire Adam et Ève. Les humains, dont un homme et une femme. Un masculin, un féminin. Il n'y a pas que dans l'homme. Hein, il y a aussi, ça s'appelle le genre aussi, hein, le genre masculin, genre féminin. C'est quelque chose qui est dans la création de Dieu. Hein. Et c'est grâce à ces pôles qu'il a créés que nous, on peut procréer avec Dieu. Hein, on peut faire des enfants. Okay, bon, pense à ça tout de suite, la sexualité, mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est grâce aux pôles. Vous savez comment marche une batterie de votre voiture, non? Parce qu'il y en a qui ont une batterie, ils ne savent pas comment ça marche. Ils savent quand ça ne marche plus, mais quand ça marche, ils ne savent pas. Ça marche comment? Ben, les femelles, oui. Ouais. Les anions et les cations, voilà, il y a un peu plus de scientifiques là. Les anions et les cations, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, si on est scientifique? Voilà, sortez vos sciences là. Hein, voilà, mais encore un peu plus scientifique là, qui... Bon, non, non. Bon, quand moi j'étais à l'école d'ingénieur, on m'a dit toujours que l'électricité, c'est exactement comme l'eau. C'est facile. Quand vous connaissez l'eau, vous savez l'électricité. C'est pareil, ça marche pareil. Et comment marche l'eau pour faire de l'énergie? Vous connaissez les barrages, hein? Vous avez déjà vu les barrages dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe? On arrête l'eau? Pardon? Il y a différents de potentiels, en fait. Voilà, c'est ça le mot. Mais il y a un potentiel qui est en haut, vous êtes à 300 mètres, et puis la turbine est à 0 mètre. Donc vous avez 300 mètres de dénivelé, et la gravité fait qu'il y a une force qui fait tourner des turbines. Okay, derrière, vous avez l'électricité. C'est simple, hein? Bah, l'électricité, c'est pareil. Dans une batterie, vous avez une différence de potentiel. Okay, vous avez effectivement un pôle positif, un pôle négatif à cause de la chimie, et les électrons passent de l'un à l'autre. Comme le courant, comme l'eau, hein, vous pouvez le voir. Hein, vous pouvez voir les petits ions qui passent de l'un à l'autre. Il suffit de mettre un petit catalyseur dedans. Et vous voyez, hop, c'est tout. Voilà, on fait ça, je ne sais pas, en troisième ou je sais pas. Voilà. Fait des petites expériences comme ça. Mais c'est pareil, hein, c'est des petits courants qui passent du plus qui est en haut vers le moins qui est en bas. Voilà. Sauf que c'est électrique, mais c'est la même chose que l'eau. Voilà. Tout ça pour dire qu'il y a des pôles avec des positionnements qui permettent la créativité. Et Dieu a mis cela, c'est Dieu qui l'a créé. Okay, c'est Dieu qui a fait ça. Alors, je ne sais pas où j'en étais là. Voilà. Donc, ce que je disais, c'était la stratégie de Dieu, la stratégie de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prend la création de Dieu et il la tord. Okay. Donc, il sait que ça, Dieu l'a mis dans la création et l'a mis en particulier dans le couple. Dans le couple, hommes et femmes, pas simplement la famille, mais dans la société. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y en a déjà qui savent comment Satan agit? Parce que si vous ne savez pas, franchement, je vous plains, parce que vous marchez un peu comme des aveugles et c'est pas ce qui se passe. Il faut savoir ce qu'il fait. Hein. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à son plaisir. Oui, mais c'est quoi? Mais là, il faut donner des... Pardon? Oui, qu'est-ce qu'il fait? Il parasite. Alors ça, c'est ce qu'il aime bien faire aussi. Mais il fait quelque chose avec les pôles. Puisque je vous parlais des pôles. Il les oppose, mais avant de les opposer, il faut autre chose. Exactement. Qu'est-ce qui est dit, les éloignes? Super, super. Vous devenez scientifique, là, c'est bien. Il les éloigne. Parce que pour faire un clash plus fort, hein, c'est plus fort de faire un clash à 150 000 volts qu'à 3 volts. Vous êtes d'accord? Hein, plus vous montez les potentiels, hein, si vous mettez une chute d'eau de 5000 mètres de haut, ça fait plus mal qu'une chute d'eau d'un mètre. Vous voyez, si vous mettez en dessous, terminé. Hein. Bah oui, avec l'électricité, avec les pôles, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'il fait? il écarte l'épaule. Okay? Il pousse, d'abord il pousse, hop, d'un côté et de l'autre. Et quand il dit ok, paf, tac, le clash, et c'est fini, c'est le chaos, c'est détruit. Il ne fait rien. C'est pour ça qu'il est. C'est pour ça que vous ne voyez pas Satan. En principe, vous ne le voyez pas. Il y en a qui ont vu déjà l'apparition de Satan. Je préfère pas que vous me levez la main parce que on va faire du TQP après. Non, non, on le voit jamais. On le voit jamais. Mais il est toujours là. Toujours, toujours, toujours là. Donc il éloigne l'épaule. Il éloigne le féminin du masculin. Alors ça peut être un homme, une femme, mais le féminin du masculin. Et c'est ce qu'il fait dans l'histoire. Dans l'histoire, il a toujours fait comme ça et il continue à le faire. Alors c'est quoi l'histoire ? Je ne vais pas remonter à Mathusalem, hein, parce que ce serait trop long. Mais prenez juste le XXe siècle. Qu'est-ce qu'au XXe siècle, l'ennemi a fait ? Non ? Vous n'avez jamais réfléchi à ça ? Ce que l'ennemi a fait ? Waouh ! Vous connaissez les nazis ? Vous avez entendu parler d'Hitler ? Hein ? Je vous ai dit, je ne remonte pas à l'histoire, mais si je remontais au XVIIe siècle, je vous parlerai de Louis XIV. C'est la même chose. C'est les mêmes principes. Toujours les mêmes principes. Et ce qu'il fait là dans l'histoire, il le fait dans vos couples, il le fait dans vos familles, c'est dans les églises, c'est pareil. C'est pareil, pareil, pareil. Alors qu'est-ce qu'il a fait au XXe siècle, là, avec les nazis ? Et qu'est-ce qui a dominé ? Waouh ! Quel pôle qui a dominé ? Quel est le pôle qui a dominé ? Pardon ? Le masculin. C'est le masculin, c'est le machisme. Est-ce que Hitler, c'était une petite féminité, là ? Hein ? Une petite femmelette ? Hein ? Non, c'était un tyran. Un tyran dans toute sa splendeur. Hein, c'était l'homme, le masculin, hein, qui emmène tout le monde au combat pour détruire, soi-disant pour établir le Reich de Milan. Okay ? Non, vous êtes avec moi ou je vous apprends des choses, là ? Ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Ok. Bon. Donc, vous voyez, dans l'histoire humaine, il n'a jamais réussi autant à pousser le masculin, le machisme, ce qu'on appelle la force tyrannique, la brutale. Vous voyez, ce qui est vraiment l'horreur du masculin. Hein, ok ? Vous êtes d'accord ? Non ? Vous êtes d'accord avec moi ? Ben, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Ben oui. Il pousse le féminin. C'est tout. Il suffit de comprendre ça. Aujourd'hui, il pousse le féminin au masculin, au maximum. Vous voyez ? Non ? Je vous apprends des choses ? Vous n'avez pas remarqué, là ? Non ? Ah, merci, merci Rodrigue de me confirmer. Réfléchissez un peu, réfléchissez. C'est ce que je disais à Kevin. Réfléchis, Kevin. Ah, parce que Kevin, il m'aidait à battre des arbres, et puis il y avait des gros arbres comme ça. Et il avait sa scie, là, sa tronçonneuse. Je dis, attends, qu'est-ce que tu fais ? Il attaquait l'arbre. Moi, j'étais même pas prêt. Je dis, mais attends, voilà, moi, je tiens ma vie, quoi. Il savait pas comment abattre un arbre. J'ai dit, mais voilà, comment on fait ? Ah non ? Il me croyait pas. Il est allé sur Internet. Il était, mais t'avais raison. Je dis, mais oui, il y a une façon d'abattre les arbres, hein, pour pas que ça vous tombe dessus. Ben, il faut réfléchir un peu, ok ? On coupe pas comme ça des choses, ça peut partir dans tous les sens. Donc, réfléchissez. Dans le siècle dans lequel nous sommes, on vient de lire en Timothée que dans ce siècle, il y a des pièges. Eh bien, il pousse au féminisme, et ça depuis 1975. Et c'est très précis, parce que dans l'astrologie, c'est l'ère du Verseau. Alors, si vous n'y croyez pas, c'est votre problème, mais le monde est tourné vers l'astrologie, vers la nature, hein, païen. Okay ? Et ces personnes-là croient, ceux qui dirigent le monde, croient qu'effectivement, nous sommes maintenant dans l'âge du Verseau, qui va remplacer l'âge du poisson. C'est-à-dire que le poisson, c'est l'âge chrétienne. Donc l'âge chrétienne, c'est terminé, on passe dans l'âge du Verseau. Et l'âge du Verseau, c'est l'âge du féminisme, la féminité. Et là, il pousse le féminin, pour qu'il y ait un clash à la fin des temps. OK ? Donc il faut le savoir. Vous voyez, moi, j'ai pas peur d'élever des ministères féminins, c'est pas un problème, parce que je sais derrière ce qui se passe, donc je fais attention. Mais quand on a peur, eh bien, on se méfie des personnes. Mais ce n'est pas les personnes qui sont dangereuses. C'est l'esprit qui est derrière. C'est l'esprit de Satan qui pousse à ça. Donc, quand on comprend ça, alors on va mettre ici le principe du schéma de Satan, hein, la proclamation de Satan. C'est écoute. Alors là, tu peux tout mettre, parce que c'est important que vous le sachiez. Écoute Dieu. On s'adresse à Dieu. On s'adresse pas. Voyez-vous, dans le premier cas, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Et dans ce cas-là, c'est l'homme qui s'adresse à Dieu. Vous voyez, c'est l'arrogance suprême. Écoute Dieu. La nature du grand tout est notre Dieu. Tout est un. Ça, c'est l'âge dans lequel nous vivons. C'est le chemin de Satan, le chemin du diable, donc la proclamation de la divinité païenne. On s'adresse à Dieu, vous voyez, il n'y a pas de respect pour Dieu, enfin la divinité. On dit la nature du grand tout est notre Dieu. Tout, en grec, c'est quoi? Pardon? Pan, P-A-N, le Dieu Pan. Tu mets ici Pan. Pan, ça c'est en grec. Vous savez que notre langue vient du latin et du grec. Pan. Et Dieu, en grec, c'est quoi? Théo. Donc tu mets Théo ici. T-H-E. Théo. Et cette religion, elle est basée sur quoi? Le panthéisme, parce que le isme, c'est christianisme, bouddhisme, machinisme, c'est ce qui explique le mouvement dans lequel on est. Okay, donc, vous mettez panthéisme, c'est la religion du dieu Pan, du dieu du tout, du grand tout. Est-ce que vous avez déjà vu une image du Pan, de Pan? Hein, c'est le fils de Mercure. À quoi il ressemble? En général, c'est l'image du diable hein, incarné. C'est un bouc lascif avec mi-homme et en dessous, ce sont un corps de bouc, ok, velu et tout ça, avec des sabots. Ok, vous y êtes? Bon, ça c'est la mythologie, hein, mais la réalité, c'est qu'effectivement, il se comporte en bouc, hein, comme ça. Et c'est le bouc aussi du Baphomet, etc. Donc le panthéisme, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui revient au galop, au galop. Et moi, j'ai vu des chrétiens panthéistes. Et j'en vois, des chrétiens panthéistes. Et donc, ils ne sont pas du bon côté. Okay, et effectivement, ils ne peuvent pas amener la bénédiction ni dans leur vie, ni dans les églises. Alors, écoute Dieu, ça c'est la déclaration. La deuxième déclaration ici, c'est tout est Dieu. Tout est Dieu. Là, ça vous fait penser à quoi? Alors tout est un, c'est aussi c'est le panthéisme, mais c'est aussi c'est le monisme. Tu écris ici aussi le monisme. Monisme, ça veut dire un. Monisme. Hein. Tout ça, vous l'entendrez. Hein. Si vous ouvrez un peu, vous écoutez les trucs, vous verrez que c'est ça. Okay, le monisme, c'est que tout est un. Ça, aujourd'hui, en Occident, c'est toute la théorie de la physique quantique. Parce que moi j'avais mon fils là, Samuel, qui était dans une des grandes écoles de physique, et disait qu'à la fin il y avait des professeurs qui lui ont dit là on ne comprend plus beaucoup parce que il y a la matière et le spirituel qui se mélangent, des physiciens. Vous avez des physiciens atomiques et tout ça, avec les quantums, plus ils rentrent dans le détail, plus ils comprennent plus. Et ils sont en face de mystères hein, qui ne peuvent plus expliquer par exemple la lumière, on ne sait pas si c'est de l'électromagnétisme ou si c'est des particules. Hein. Donc Newton et tout ça a inventé les particules, tout ça. Mais là, on commence à complètement plafonner et les physiciens les plus haut placés, ils disent ben, on ne sait plus. Il y a du spirituel. On ne sait pas pourquoi ça se passe. Et il n'y a pas du tout une théorie physique qui peut l'expliquer. Einstein a commencé, mais ça fait longtemps qu'il est dépassé, Einstein. Et donc, on est dans le monisme de la physique quantique aujourd'hui. Donc, l'Occident, rationnellement, il rentre dans le panthéisme, dans le monisme. La deuxième chose qu'il dit, c'est tout est Dieu. Voyez-vous, Dieu est le tout autre, tout est Dieu. Là, c'est quoi? En Afrique, vous savez ça. Pardon? Non, mais en Afrique, c'est quoi que vous... C'est pas... Voilà, partout. Les cristaux, partout, c'est Dieu, quoi. Hein, voyez-vous, ça c'est quelque chose qui est connu un petit peu partout. Alors, le monisme, Voilà, c'est aussi le holisme, hein, le holistique, hein, c'est le nouvel âge. Et tout est Dieu, c'est le grand tout, donc panthéiste, hein, puisque tout c'est pan, et Dieu c'est théo. Donc ça, c'est aussi du panthéisme. Hein. Donc on adore la nature. Et la nature, c'est représenté par quoi? Au point de vue d'une image, d'une idole. C'est la femme. C'est la femme, c'est la mère. C'est la grande mère. Alors, vous voyez, on s'affole sur Vierge Marie, mais Vierge Marie, c'est qu'une christianisation de la mère. Hein. La mère qui porte son enfant, etc. Et le premier qui a introduit ça, c'est Adam. Adam, après la chute, comment il a appelé sa femme? Ève, c'est pas Dieu qui l'a appelé Ève, je vous signale. C'est Adam. Dans son péché, il appelait Ève. Ève, ça veut dire quoi? La mère de tous les vivants, y compris des dieux et des hommes. La mère de tous les vivants. Et depuis ce temps-là, tout le monde a adoré Ève. Et quand vous allez, alors après, en Égypte, c'est Isis, après, en Phrygie, c'est Cybèle, etc. Mais c'est toujours Ève, l'adoration d'Ève. C'est-à-dire l'adoration de la mère. La grande mère, c'est celle qui est sur, voilà, sur le monde, sur le pays. Ça ne vous a pas étonné? Moi, je m'étais étonné que Mitterrand se fasse enterrer une messe à Notre-Dame. Tant il était athée, enfin, il se disait athée, et il était à Notre-Dame, oui, et il croyait à la grande mère. Hein. C'est la grande mère qui est protectrice, vous voyez. Et donc, c'est dans le féminin. Et on remet le féminin à l'honneur, comme ça a toujours été le cas, mais là, on remet l'emphase dessus. Et là, on est dans une révélation. Dieu qui dit l'Éternel est un, Dieu est le tout autre, je suis une créature voilà, merveilleuse, une créature nouvelle, je suis celui qui suis. Ici, on dit, écoute Dieu, c'est la nature qui est Dieu. Hein, c'est la nature, on vient de la nature. Voilà, tout le monde, c'est évident que c'est la nature qui donne la vie. Hein. Il suffit de mettre une graine, hop, ça pousse, voilà, etc. Donc on est axé sur la nature. Ici, on dit tout est Dieu. Voilà, c'est du chamanisme, c'est ce que tout le monde croit que Dieu est partout. Hein, il y a la vie partout, etc. Puisque on croit que c'est dans la nature. Donc on adore tout ce qui bouge, etc. Et donc là, on est dans un sophisme. Un sophisme, ça veut dire une logique qui est fausse. Et c'est ça la sagesse du monde. Dieu dit la sagesse du monde est une folie. Pourquoi? Parce que on déduit des choses. Vous voyez, c'est pas une révélation. Ici, on est dans la révélation. On a besoin de savoir ce que Dieu dit à propos de lui, à propos de nous. Et là, on est dans un sophisme, un raisonnement faux. Et c'est quoi ce raisonnement? C'est que là, on dit « je suis Dieu ». Forcément, la logique est imparable. Tout est Dieu et c'est le grand tout qui est notre Dieu. Donc comme tout est Dieu et Dieu est partout, bah, Dieu est en moi et moi je suis Dieu. Vous voyez? Et c'est ça la logique. Et c'est pour ça que ça monte en ce moment dans chacun de nous. Et ça a été dit par les philosophes comme Nietzsche et autres, hein, le Dieu, le surhomme et tout ça. Donc le sophisme fait qu'on déduit, hein, tout est Dieu, Dieu c'est le grand tout, tout est Dieu et je suis Dieu. Et ici, on conclut par Descartes qui dit « je pense, donc je suis hein, ». Je suis. Je suis, c'est-à-dire que l'équivalent du je suis. C'est par la pensée, voyez-vous, par la pensée que je suis. Donc je suis Dieu. Okay. Et c'est dans cette logique-là qu'on arrive effectivement à établir dans notre société mondiale le fait que l'homme devient Dieu. Et là, tout est possible. Hein. Tout est possible dans l'horreur. Hein. Voilà. Et si nous, chrétiens, nous ne sommes pas avertis de ça, on tombe dans le piège. Alors, on va continuer par les versets que j'ai lus tout à l'heure. Je refais juste une... Ok, ici. Tout à l'heure, on a... tu as l'autre, le vert. Enfin, voilà, donc ici. Tu écrivais une colonne. Le Père, c'est 1 Corinthiens 3, 23, le Père et son Fils. Donc il est avant toute chose, en Corinthiens 3, et tout subsiste en lui, c'est Jésus, ça c'est Colossiens. Il est avant toute chose, et tout subsiste en Jésus. Okay? Parce que c'est lui qui est le commencement de la création. Dieu l'a établi pour être créateur de toute chose. Amen. Donc le Père et son Fils, 1 Corinthiens 3, 23. Ici tu mets tout est à vous, tout est à vous. Donc je rejoins le verset tout à l'heure de 1 Corinthiens 3, 23. Tout est à vous, vous êtes en Christ et Christ est à Dieu. Tout est à vous. Ici en dessous tu écris vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Voilà l'affirmation de Paul quand il parle de la sagesse de Dieu. Quand il dit les fondements sur lesquels nous devons être assis. Tout est à vous. Voyez-vous, on retrouve le tout. Mais on n'adore pas le tout. On n'adore pas la nature. Mais tout est à nous parce que Christ nous le donne. Voyez-vous, on ne se l'approprie pas. On ne le revendique pas comme un Dieu. On ne le revendique pas comme quelque chose qu'on veut s'accaparer. Mais il nous est donné. Voyez-vous, quand on est en Christ, quand on est dans l'adoration, quand on est avec Dieu, eh bien tout est à nous, voyez-vous. Ici, l'homme le revendique, il le revendique par un raisonnement complètement fallacieux, ce qu'on appelle sophisme, qui est faux, et ça se terminera dans le chaos. Donc, il réclame le tout. Eh bien, tout est à nous. Allô ? Voyez-vous, c'est formidable, parce que quand on cherche à atteindre Dieu, alors que Dieu vient vers nous et nous donne tout. Okay, on n'a pas besoin de le prendre. Tout est à vous. Tu me donnes juste un point. Tout est à vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Vous voyez la logique? Là, il y a une hiérarchie, effectivement. C'est pour ça qu'il faut nous soumettre à Dieu. Parce que Dieu le Père qui est là, tu mets ici Dieu règne. Dieu règne. Dieu règne par son Christ. Et en Christ, tout est à vous et nous sommes en Christ, donc tout est à nous, voyez-vous. C'est fantastique. Tout nous appartient, mais nous n'avons pas à le réclamer, puisqu'il nous est donné. C'est la grâce. Amen. Alors si on vient de ce côté-là, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même chose. De l'autre côté, c'est la mère et son fils. Voyez-vous, nous sommes dans le féminisme. On adore la mère, on n'adore pas le père. C'est pour ça que les choses sont inversées. On adore la nature, on adore le féminin, on adore tout ça. Okay. Et Satan passe toujours par le féminin pour la tentation. Toujours. Toujours, toujours. Il a commencé dans le jardin, il a vu que ça marchait. Et il continue. Il sait comment ça se passe. Il passe toujours par le féminin. Donc, la mère et son fils, donc c'est l'idole de la jalousie dans Ézéchiel 8. Dans Ézéchiel 8, vous voyez que quand les Juifs se sont détournés dans le temple, eh bien, Dieu a emmené Ézéchiel et dit, regarde ce qu'ils font, l'horreur qu'ils font. Et qu'est-ce qu'il y avait? Au nord du temple, il y avait l'idole de la jalousie. C'est la mère et son fils. La mère et son fils que vous retrouvez dans toutes les cultures, toutes. Je pourrais vous égrener tous les pays, toutes les cultures. Tout le monde adore la mère et son fils dans les religions païennes. C'est la principale adoration qui amène la malédiction sur le pays, sur les gens, sur les familles. La mère et son fils, c'est Ève, c'est la mère terre de tous les vivants. Pourquoi? Parce que naturellement, on dit, ah oui, la femme donne naissance, donc elle donne la vie. Oui, mais c'est du panthéisme, c'est complètement païen. Mais c'est ça qui conditionne les choses, l'idole de la jalousie. Et ici, on dit, tout est un. Tout est un, on retrouve bien sûr le monisme, le holisme. Aujourd'hui, on dit holistique. Holistique, ça veut dire c'est. Alors, quand vous faites du management, ça s'appelle la systémique. Systémique. Moi, j'en ai fait aussi de systémique, parce que comme au XVIIe siècle, on a séparé les sciences, physique, chimie, etc. On s'aperçoit que tout est un. Donc, on veut essayer de retrouver tout un, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas. À part Léonard de Vinci, c'est le dernier savant qui savait tout faire. Mais après, on a décomposé. Aujourd'hui, si vous voulez un chimiste, il ne va pas vous parler de physique. C'est pas du tout pareil. Quand vous êtes vraiment spécialiste, vous ne pouvez plus. Ça n'existe plus un homme universel comme Léonard de Vinci. C'est trop compliqué. Et donc on invente la systémique. La systémique, c'est on veut tout remettre ensemble parce qu'on voit bien que c'est pas possible. Donc la systémique, c'est un grand mot pour parler de holisme, le holistique, ou le monisme, c'est la même chose. Tout est un. Et ici, on dit tout est Dieu. tout est Dieu. Et ici, on dit, je suis Dieu. Et là, c'est Satan qui règne. C'est Satan qui règne. Et qui dit, mais tu peux te perfectionner. Tu as Dieu en toi. Puisque la nature est en toi, tu as Dieu en toi. Donc simplement, je vais t'aider, je vais donner quelques conseils. Et sur Internet, quand vous allez sur Internet, vous avez même plus besoin d'aller dans les sociétés secrètes. Avant, se soulever dans les sociétés secrètes, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Tout est à votre disposition. Voulez-vous perfectionner? Allez-y, perfectionnez-vous. C'est l'échelle de la perfection. Et vous avez tout. Et vous rentrez dans le monde occulte. Parce que là, il vous aide à rentrer dans ces choses-là. Et grâce à Internet, hein, il y a des bonnes choses sur Internet. Moi, je l'utilise tout le temps. Hein, mais il y a aussi les mauvaises. Et les mauvaises, c'est ça. C'est que il va faire entrer le monde entier dans une dimension d'occulte, de gnose, de connaissance secrète pour devenir Dieu. Pour utiliser la puissance, pour utiliser les choses qui sont cachées, parce qu'elles sont occultes. Parce qu'il y a des choses que vous savez, sur le plan physique, hein, si je laisse tomber le micro, il tombe. Hein, voilà, donc ça je sais, c'est l'effet Kalem Gamma et ça tombe. Mais il y a des choses que je ne sais pas. Il y a des forces, il y a des énergies et tout ça. Et c'est ce monde dans lequel on est et qui est un piège pour les chrétiens. C'est pour ça que j'en parle. C'est un piège pour les chrétiens. Moi, j'ai vu des chrétiens, des chrétiennes qui sont dans ces dimensions. Je peux vous dire que la puissance qui vous tombe dessus, elle est incroyable. Hier, on n'a rien vu hein, dans les manifestations, mais là, c'est grave. Et c'est dans ce sens qu'on tombe. Alors, la semaine prochaine, la semaine d'après, je vais vous donner un peu plus d'informations sur les origines de ça, comment il faut s'en préserver, comment il faut se tenir en ce moment devant ça, et que nous devons nous purifier. C'est pour ça que le verset qu'on a lu tout à l'heure, hein, qui dit « purifie-toi ». Amen. Parce que si nous ne voulons pas que nos œuvres soient des œuvres qui soient détruites par le feu, eh bien, il ne faut surtout pas toucher à ça, mais tout le monde y touche. Aujourd'hui, tout le monde dit. Et les chrétiens sont tentés par ça. Alors, bien sûr, présenté comme ça, vous dites « Ah non, c'est pas possible. » Mais si, c'est possible. Et je vous donnerai des détails comme quoi c'est possible. Et même dans les églises, ça pénétrait parce que c'est très subtil. Très subtil. Et ça passe toujours par le féminin. Pas toujours par la femme, mais par le féminin. Par les choses du féminin. Et c'est pour ça aussi les hommes doivent prendre leur place. Les hommes de plus en plus reculent, hein, voilà, parce qu'on leur fait comprendre que voilà, c'est pas leur place. Hein. Mais en même temps, il ne faut pas qu'ils tombent dans le machisme, sinon ils deviennent des tyrans comme Hitler. Vous voyez. Donc nous, il faut être équilibré, c'est ça le plus difficile, l'équilibre. Hein. C'est plus facile d'être d'un côté ou de l'autre, parce que vous avez besoin d'équilibre, vous êtes dans un confort, ça ne bouge pas. Hop, vous laissez aller. L'équilibre, c'est toujours, il faut redresser les choses hein, pour rester dans l'équilibre. Et servir le Seigneur dans la dimension de la foi. Amen. On va prier. Seigneur, nous te remercions. Merci Charles. Nous te remercions pour ta parole. Seigneur, qui nous prévient que dans les derniers temps, il y aurait cette séduction qui s'abattrait sur le monde. Et nous sommes de ce monde, Seigneur. Mais tu veux nous préserver, Seigneur, par ta parole. Et par, Seigneur, l'Esprit Saint que tu mets en nous, Seigneur. Merci Père de nous garder, de nous garder vigilants, Seigneur, afin que, Seigneur, par notre communion avec toi, notre relation avec toi, nous puissions nous détourner des pièges de l'ennemi. Seigneur, nous avons besoin de ton aide et de ta grâce, afin que nos œuvres, les œuvres que nous les fassions et que nous puissions en obtenir une récompense, parce qu'elles tiendront debout, Seigneur, lorsque le feu passera, le feu, Seigneur, de l'épreuve, le feu, Seigneur, de la purification. Et Seigneur, nous voulons nous purifier avant que le feu n'arrive, afin que nous soyons vraiment capables, Seigneur, de faire ces œuvres et de ne pas nous laisser entraîner par le monde, Seigneur. Parce que tu as dit que le monde est inimitié contre toi. Et si nous aimons le monde, le Père, l'amour du Père ne peut pas être en nous. Alors Seigneur, donne-nous ta grâce, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. J'invite les personnes